drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés quand ils marchent dessus, qu'ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous. Comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes. Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Le vrai sens du livre, chez Saint-Exupéry par exemple, si on prend Vol de nuit, ce n'est pas d'être ingénieux, c'est de nous montrer justement la limite héroïque où l'homme se différencie de la bête. René Char, un des plus grands poètes français du XXe siècle, s'est illustré d'une façon héroïque aussi, à la manière de Saint-Exupéry, dans la guerre, dans l'action, dans la résistance. Chez Saint-Exupéry, l'homme l'emporte sur l'écrivain. De l'héroïsme, on est passé au patriotisme et la mort, ce qu'on appelait la mort sacrificielle de Saint-Exupéry, est dans cette optique interprétée comme une vérification pratique de la conception du héros. La deuxième chance de Saint-Exupéry, mais on dit plutôt le mythe dit Saint-Ex, est donc bien la guerre qui lui permet de donner une nouvelle et une définitive foi, un sens à la vie. L'œuvre née de l'action et de la vie ne s'accomplirait que dans un retour à l'action et surtout un retour à l'amour. Chez René Char, la célébrité est venue avec les feuillets d'hypnose. Les feuillets d'hypnose sont les poèmes que René Char a écrits en Provence quand il dirigeait les 1400 hommes qui devaient s'occuper du parachutage des munitions, de trouver les aéroports, de trouver les lieux d'atterrissage et des caches d'armes, ce qu'il a fait d'une façon extraordinaire, René Char. Et donc on peut se demander aussi si est-ce que c'est les feuillets d'hypnose sont des poèmes donc de la résistance qui n'ont pas été publiés pendant la résistance parce qu'il n'a pas voulu qu'ils soient publiés pendant la résistance. Il a été sollicité et il a dit non, tant que la guerre dure, tant que le pays est occupé, il ne donnera pas à publier de poèmes, contrairement à bien d'autres. Et ce n'est que à la fin de la guerre que René Char, qui refuse également de faire partie des tribunaux populaires de la libération, René Char, à ce moment-là, donne à publier des feuillets d'hypnose qui auront un succès considérable. Et ce sont les poèmes de la résistance. Alors, on peut se demander si lui aussi, en définitive, sa vocation de poète et ce qui a fait le mythe René Char n'est pas né aussi de son action pendant la guerre. Et on peut dire, comme pour Saint-Ex, que l'œuvre née de l'action et de la vie ne s'accomplirait que dans un retour à l'action et surtout un retour à la mort. René Char, qui disait « La poésie est la solitude sans distance parmi l'affairement de tout, c'est-à-dire une solitude qui a le moyen de se confier, honnête, à l'aube, l'ennemi d'aucun, excepté des bourreaux. » Voilà, une belle phrase qu'il faudrait avoir en mémoire. Honnête, à l'aube, l'ennemi d'aucun, excepté des bourreaux. Attention, excepté des bourreaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand poète qui est Marcel Migosi, dans un livre splendide. Auparavant, si vous le permettez, je vais faire juste une annonce. Nous recevons beaucoup de livres. La plupart de ces livres feront l'objet d'émissions. Bien entendu, ça va prendre du temps et je demande aux auteurs donc de patienter un peu. Ils ne sont pas oubliés. Mais je préfère, dans une émission, traiter mieux un seul auteur, faire une annonce simplement pour avoir plus de temps à consacrer à un auteur, surtout quand il s'agit, comme cette semaine, de Marcel Migosi, qui me semble être un auteur qui a une œuvre derrière lui et qui est une de nos grandes voix du XXe et XXIe siècle. Alors, l'annonce que je voulais faire, c'est, et encore une fois, je suis absolument admiratif de la qualité d'édition de cet éditeur, Levant, L-E-V-A-N-T, qui est dirigé par Michel Écarélial. Michel Écarélial, qui est ce poète et traducteur de la littérature hébraïque moderne, que je vous donne à écouter. Je vous invite à voir sur notre site lespoètes.site, lespoètes tout attaché sans accent.site, la dernière émission de Michel Écarélial sur son œuvre à lui, non pas en tant qu'éditeur ni traducteur, mais son œuvre à lui, une œuvre extraordinaire, son dernier livre, Crié à l'étoile, aux éditions L'Aigrette, et qui fera l'objet du prochain éditorial de ce site, lespoètes.site. Michel Écart dirige donc cette revue, ce qui était la revue Le Vent, Cahier de l'espace méditerranéen, et la Bibliothèque du Levant, qu'il a fondée en 1988 à Tel Aviv, et qui est aujourd'hui à Montpellier, dont la vocation est de promouvoir un dialogue pour la paix entre les trois rives de la Méditerranée. Alors, cette dernière publication, c'est celle de Myriam Neger-Fleischmann. Myriam Neger s'inscrit comme Neger, N-E-I-G-E-R, trait d'union, Fleischmann, F-L-E-I-S-C-H-M-A-2-N. Myriam Neger Fleischmann, le poème de Myriam, traduction de l'hébreu, par Michel Écart-Elial aux éditions Le Vent. Un livre, comme toujours, très bien réalisé par ces éditions. Michel Écart-Elial est un peu, un perfectionniste, hein, de la mise en page, de l'édition. Il veut vraiment que ce soit toujours parfait et il y réussit toujours. On dirait chaque fois des vrais, véritables livres d'art, ces livres de Le Vent. Myriam Neger-Fleischmann, elle est poète, elle est aussi plasticienne. Et puis, c'est ma génération. Elle est née en 1948 dans une ville qui est frontalière et divisée entre la Slovaquie et la Hongrie par le Danube. Myriam Neger-Fleischmann est titulaire d'un doctorat en littérature hébraïque et elle est titulaire de diplôme de l'Académie des Beaux-Arts Bezalel à Jérusalem. Donc elle est peintre, il y a en couverture de ce livre le poème de Myriam, il y a un de ses tableaux. Peintre, elle participe donc à de nombreuses expositions individuelles et ses œuvres se trouve dans la collection permanente du musée d'Israël et dans de nombreuses collections publiques et privées, aussi bien en Israël qu'à l'étranger. Sa pratique et ses recherches artistiques, c'est une connaissance érudite de la tradition hébraïque, et c'est ce qui va caractériser aussi son écriture poétique. Alors, elle a publié 4 livres de poésie en hébreu, et elle a remporté plusieurs prix littéraires là-bas. Un volume de sa poésie a été traduit en hongrois et une sélection de sa poésie traduite et publiée en anglais en 2017 par Anthony Rudolph. Le poème de Myriam, qui rassemble un choix de ses poèmes parus en hébreu, c'est son premier livre qui est traduit en français et elle vit à Jérusalem. Voilà. Donc Jérusalem, qui est aussi maintenant le dernier auteur que nous avons eu de la psychanalyste, dont nous avons parlé dernièrement, également vit à Jérusalem aussi. Donc c'est une pépinière d'artistes, hein, à Jérusalem. Myriam Neger-Fleischmann, le poème de Myriam, fera l'objet d'une émission. Je vais simplement vous lire un extrait, mais je voulais vous le signaler pour que vous puissiez déjà vous procurer ce titre aux éditions Le Vent. Et il vous suffit de le demander en librairie, bien sûr, sinon d'aller voir sur le site des éditions Le Vent, L-E-V-A-N-T. Hein. Poème pour Myriam. Pour toi, Myriam, ce poème sur les rives du Nil, c'est ton visage éloigné du temps que je lis dans l'archive biblique. Il glisse sur la spirale du temps, il remonte sur l'écran. Roulez tambour, chantons Alléluia. Le roseau a pleuré, grande sœur, versé des larmes de crocodile. Il portait des masques d'hommes aux aguets. Et toi, silencieuse flottant, comme un lys devant nous, tu dévides les fils avec une paisible sagesse d'une navigation secrète. Tu entrevois venir vers toi de futures intrigues où tu ne te diriges pas. Jour après jour, la prophétie jaillit, une langue ancienne fleurit, elle chante dans cette poésie nouvelle, elle tire de l'oubli le pincement des mots. Ouvre-toi, comme le puits errant accompagne tout lieu, majestueux. Le poème, il t'écoute. Ce qui est dit dans ton cœur, redis-le encore. Poème pour Myriam, dans le secret des roseaux. Viens, femme, émerge de l'oubli, multiplie ta révolte, apporte une mer impalpable avec toi. Pourquoi devenir amère? Dis-nous en face, à quoi sert la sagesse si ta voix on ne l'entend pas. Le poème de Myriam aux éditions Le Vent, traduction de l'hébreu par Michel Icard Elial, de Myriam Neger Fleischmann. Marcel Migosi publie un très très beau livre, qui est pour moi un véritable livre d'art, aux éditions Tipaza. Le titre, Il restera des étincelles, poème accompagné de peintures de Serge Plagnol. C'est un format à l'italienne, très beau livre. Les peintures de Serge Plagnol sont d'une beauté éclatante, un chatoiement de couleurs qui fait de ce livre un véritable livre d'art, disais-je, mais un régal et certainement un livre qui fera un très très beau cadeau de Noël. Il restera des étincelles de Marcel Migosi aux éditions Tipaza. Donc, très bonne idée pour offrir à Noël. Marcel Migosi, c'est un vieil habitué de cette émission. Nous avons chaque fois réalisé une émission sur ses publications. Marcel Migosi est enseignant à la retraite, puisqu'il est né à Toulon en 1936, rue de la Fraternité. Déjà, naître rue de la Fraternité, c'est aussi un signe du destin, hein. Et il est né dans une famille ouvrière d'origine corse, Migosi. Depuis 1956, il vit et travaille au Canet des Morts. C'est un village du centre Var. Il est cofondateur des revues de poésie La Cave et Chemin. Ceci, c'était dans les années 60, de 1960 à 1968. Il est membre du comité de rédaction de la revue Action Poétique. Il y a une revue mythique pour les gens de ma génération, hein, c'est une revue, l'Action Poétique. La revue Action Poétique, c'est vraiment une revue qui a beaucoup compté à l'époque, hein, de 1965 à 1968. Il était membre du conseil de rédaction de la revue Sud, encore une revue mythique, hein, qui a repris la revue historique, hein, la revue Sud, de 1994 à 1998. Hein, il y avait des articles, bien sûr, de Jo Bousquet, de Malrieux, mais aussi de Simone Veil, la philosophe. Il est correspondant permanent de la revue luxembourgeoise Estuaire de 1992 à 2002. Alors Marcel Migosi a été lauréat du prix Jean Malrieux en 1985 et du prix Antonin Artaud, le prix qui a disparu actuellement, le prix Antonin Artaud qui lui a été attribué 10 ans après le prix Malrieux en 1995. Il a été lauréat également du prix des Charmettes Jean-Jacques Rousseau, ceci plus récemment, puisque c'était en 2007. Marcel Migosi a publié de nombreux ouvrages de poésie, ou de prose même, chez différents éditeurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Il a été invité dans plusieurs festivals de poésie, il a collaboré à de nombreuses revues, il a réalisé plusieurs livres d'artistes avec des plasticiens, ce sont des livres qui sont tirés quelquefois à 15 exemplaires, hein. Et certains de ses poèmes ont été traduits en allemand, en espagnol, en portugais, en roumain, en grec et, bien sûr, en corse, hein, puisqu'il est d'origine corse. Un court-métrage de Philippe Guérin, il a même eu une mention spéciale au Festival de court-métrage à Barcelone, récemment, là, pendant le Covid, là, en 2019, hein, a été tourné sur des poèmes extraits de son recueil Écaillure des jours. Écaillure des jours, donc, a été présenté, ce court-métrage à Barcelone, et il a eu une mention spéciale à ce festival donc, des courts-métrages qui a lieu chaque année à Barcelone. Alors, il tient pour une poésie lisible, ça c'est important, incarnée. un souci du monde quotidien, c'est-à-dire l'amour, l'enfance, le jardin, les voyages. On retrouve, je réalise qu'on retrouve dans l'énoncé là de ces, ce souci du monde quotidien aussi, cette poésie lisible, on retrouve peut-être aussi une posture comme un de nos grands poètes qui est Joël Vernet. Joël Vernet, dont je vous invite aussi à voir les, la dernière émission de son, son dernier livre, hein, qui est sur notre site lespoètes.site. Et c'est une poésie, celle de Marcel Mégozy. Comme dans, dans les écrits de Joël Vernet, je crois qu'il y a une comparaison qui est possible, peut-être parce qu'il y a une posture et une recherche de la simplicité, mais dans l'humilité. Hein. Et l'émotion n'est jamais suspecte chez eux. Il est sensible à la caducité de la vie. Il écrit pour tenir, dit-il, tenir, tenir. Qu'est-ce qu'il disait Éloire ? Le dur labeur de se maintenir, justement, à, de durer, le dur, dur souci de durer, hein. Tenir, approcher le dérobé sacré, c'est-à-dire, attention, comme chez Vernet, il s'approche là, de ce dérobé sacré, mais chez Vernet aussi, hein, c'est la nature, hein. Justement, cette simplicité de la nature, cette humilité que nous offre la, la nature, c'est non religieux. Et il travaille à corriger inlassablement le poème qu'il ne considère jamais achevé. Alors j'ai connu, moi, des poètes comme ça, je pense à Claude Saguet, par exemple, qui était tourmenté par, par ses poèmes et qui, en deux, trois semaines, avait je ne sais combien de versions du même texte. Hein, qu'il fallait lui dire à un moment donné, bon, quand est-ce que tu nous donnes la définitive ? Voilà. Donc ce sont des gens qui sont excessivement scrupuleux, qui ont compris que le, la langue, le mot, véhicule des choses tellement importantes qu'il faut vraiment les peser chaque mot au trébuchet. Parmi les dernières publications de Marcel Mégozy, citons Ruralité, c'était chez Sylvain Rabaud, hein, aux éditions Alcyone. Des jours en s'en allant, aux éditions Petra, ça c'était en 2016 aussi. Célébrer vivre, estuaire en 2018, en collaboration avec le poète luxembourgeois René Velter. Quelque part de voyage, gros texte 2018. Rouge convalescent suivi de l'invisible donation, c'était chez Tarabus en 2019 et c'est la dernière émission que nous avons fait sur Michel, sur Marcel, pardon, Mégozy, sur ce livre, hein, Rouge convalescent suivi de l'invisible donation. Vous pouvez le trouver toujours sur notre site, il est toujours en ligne, sur notre site lespoètes.site, il y a même un éditorial qui concerne cette publication. Et je poursuis dans le, les titres des parutions de Marcel Mégozy. Je me souviens, doit être dit comme je t'aime, ça c'était aux éditions Henri en 2019, donc très récent. Puis Caillure des jours, extrait des carnets, c'est 2002-2009. Ceci, c'était aux éditions Villa Cineceros et ça a été publié également en 2019. Voilà, donc vous voyez, une publication abondante. Et puis alors, cette année 2019, vraiment beaucoup de publications. Bon, c'est quelqu'un qui a évidemment l'expérience des ans, l'expérience de, d'une grosse, grosse œuvre, une grosse création derrière lui, et qui, bien sûr, est au fait de son art maintenant. Alors, c'est illustré des peintures de Serge Planignol. Alors, lui, il est né en 1951, c'est un Toulonnais, hein. Et après des études d'histoire de l'art et d'art plastique à l'Université de Provence, Serge Plagnol devient professeur à l'école des beaux-arts de Toulon, puis à celle de Nîmes. Il vit et peint à Toulon et en Provence, et ses lieux méditerranéens irriguent sa peinture. Voilà. Alors, ses œuvres sont visibles dans plusieurs musées, le musée d'art de Toulon, le MAGMAG de Nice, le musée Cantini de Marseille, les FRAC Provence, Alpes, Côte d'Azur et Champagne-Ardennes, la fondation Regard de Provence à Marseille, la Villa Noailles et la Tour des Templiers à Hyères, la maison du Cygne à Six-Four, la Villa Tamaris Pacha à La Seyne-sur-Mer et la Villa Théo au Lavandou. Donc, si vous passez par là lors de vos séjours de vacances, vous pouvez visiter donc les lieux dont je vous ai énuméré et voir les tableaux de Serge Plagnol. Sa peinture est représentée actuellement par la galerie Area à Paris, la galerie Frédéric Storm à Lille, la galerie Guyenne Argascogne à Bordeaux et la galerie Pomme Turbine à Thonon-les-Bains. Je serais bien heureux également de pouvoir l'accueillir à Toulouse, car vraiment c'est une peinture très chatoyante et je dirais très prime sautière, terriblement optimiste. Voilà, alors il me dit, Michel Migosi, voici quelques étincelles hoc. Étincelles hoc, voilà. Lui aussi, en Provence, il y a cette Languedoc, hein, provençal, Languedoc. En ce monde, nous marchons sur le toit de l'enfer et gardons les fleurs. Cette citation d'Issa est mise en exergue. Alors, il y a un avant-dire que je vais devoir vous lire parce que je crois qu'il est important et qu'il situe bien peut-être ce recueil Restera des étincelles, ce très beau livre de Marcel Migosi. Attention chantier, il s'agit de Marilyn Desbiol, que l'on voit d'ailleurs, dont la signature apparaît également dans la collection de Poépsi, hein, de Daniel Faugeras. C'est un nom qui est un nom que l'on connaît, Marilyn Desbiol. Attention chantier, voilà ce qu'elle dit au sujet de ce livre de Marcel Migosi. Je voudrais que ces quelques mots soient un avertissement plutôt qu'une préface. Un avertissement, une mise en garde plutôt qu'un avant-propos. Un avant-dire, bien inutile. Comment pourrais-je m'arroger le droit de précéder, de donner un avant à des mots qui, quant à eux, visent l'ici et maintenant, où ils ne peuvent se ficher que dépourvus de toute fioriture, de tout lest. Si bien que même le passé y est au présent, et même le regret du passé, la mélancolie. Je mets en garde le lecteur. Il ne s'agit pas de pleurer les vieilles lunes, un ordre ancien. Il ne s'agit pas de pleurer le grand Molne, et toujours à découvrir, inconnu, encore petit Molne, s'est endormi, semé comme une fève, qui lèvera bien peut-être. Attention, chantier, les mots sont jardiniers, les mots sont travailleurs, depuis le fond des jours. Le fond des jours, c'est le titre d'un livre de Marcel Migosi. Hein. Depuis le fond des jours, publié en 1963 et bien avant, sans doute. Il n'y a pas d'héritage qui tienne, ni héritage, ni dot, ni bas de laine, aucune assise. Il faut tout remettre sur l'établi, drap, neige ou cerisier fleuri, tout réexaminer. Guetter avec inquiétude l'apparition nouvelle. Tout laboureur, comme si rien encore n'avait poussé, avec l'envie de renverser le monde, désir de retourner le monde, de le culbuter, épine et pétale du désir. Les mots sont travailleurs, les mots sont amoureux, et c'est tout un. Car comment ? Sa vie durant, œuvrer dans le chantier du monde sans aimer de toute sa chair la chair du monde, sa chair fruit tiré, mordu très doucement. C'est une citation donc d'un poème de Marcel Migosi, sa chair fruitée, autre vers, mordu très doucement. Chair tenaillée par sa disparition prochaine, par la mort, moquée obstinément de tout temps, cogne à ses pages et fait battre le cœur plus fort. Car la mort n'existe pas. La poésie de Marcel Migosi saute à pieds joints par-dessus un néant auquel nul mot ne donne voix. Elle saute à pieds joints dans un futur où il restera des étincelles. Elle, qui prétend ne pas en faire. Elle, dont la modestie résiste aux meurtrissures comme la joie. Elle, dont la modestie résiste, fidèle à ses vœux en les renouvelant, veillant à l'anneau, ce rien d'or presque invisible, veillant à ne pas l'abîmer d'un mot de trop, prenant soin de le frotter éperdument et le hausser à la lumière afin qu'il brille comme au premier jour des noces. Marilyn Desbiol. Alors après ce texte liminaire de Marilyn Desbiol, le livre se décompose en plusieurs parties. Il y a aussi prière, puis sous le calendrier le clou, puis des poèmes reposoirs, puis sanctuaire de chair, puis étincelle verte. Nous allons commencer par aussi prière. Sois un homme libre comme les cyprès. C'est une citation du cheikh Sadi de Shiraz. La nuit, comment la peindre? Même penché à la fenêtre d'un jardin, on ne sait pas, et puis l'on sait la nuit, avec deux lampes qui flamboient, voici la nuit à deux voyelles et à cyprès. Dès le matin, dans l'air pierreux, un buisson mal peigné, un cyprès, petit noir, à l'heure parfumée du bol, on entre dans un ciel en feu, fouetté par des nuages, comme l'automne en montre au fond d'un jardin clos le soir. Ces nuages, le ciel en décharge parfois, sous les murs du cercle des vieux travailleurs. Leurs orages n'ont plus de promesses d'éclairs, ni de jeunes odeurs de terre. Ils sont pétris de lourds silences, comme des éboulis hérissés de cyprès. Ils se sont rassemblés en bandes de videurs, de gravats célestes. Soudain, la nuit est là, envahie par des cyprès froids. Demain, la nuit ne l'aura pas prévu. La nuit est là, mais attachée à des ombres qui n'ont plus d'âge. Et c'est quoi, dans la nuit, l'âme ? Les cyprès ne sont pas des arbres de ténèbres. Un seul cyprès en dit bien plus sur une nuit que tous les silences des dieux. Dans la vieille civilisation des cyprès, entre chiens gris et loups pelés, ô cyprière, l'obscur est bien entretenu. Les cyprès sans saison surveillent l'envers de l'ombre revenante. On a vécu dans son enfance cette peur, quand la nuit effaçait les limites du corps. Personne au jardin seul, le silence des fleurs noires. On sent l'odeur de la vieille herbe, que l'enfance prend fin. Lamentu le soir, à l'heure des cyprès, où des oiseaux se posent leurs yeux à la place des fleurs, ombres proches des tombeaux, maisons fermées telles des mains de juges, eut lamentu, dans le soir brûle un cierge noir. Comme une nuit a traversé un éclaireur, la gorge tachée de ciel. Des étoiles s'inviteraient dans les cyprès. On sentirait la nuit fruitée et la beauté ne serait plus si éphémère. Tant moutarde nappant le jour, malaise comme nombre impair de cyprès, c'est un vallon de pauvres sans public après la pluie, c'est un canton de vignes nues entre des pierres retraitées pour des heures déjà veuves comme d'anciennes étreintes. L'hôpital éloigné de la ville, on a numéroté les portes. On a beau lire « Accueil », le ciel n'a plus d'attache ici. On offre les dernières fleurs, un repos de mauvais silence. Ici, les cyprès mangent tôt. Dans le jardin artificiel, des bancs ont été repeints pour de vieux hommes en pyjama. Les plus maigres sont absents. D'eux arrive une fumée quand on brûle leur coton, déjà séparé des chairs. On passe maintenant à la deuxième partie de ce livre, Sous le calendrier, le clou. Il y a une citation en exergue de Louis-René Desforêts, « Vivre en bonne intelligence avec le doute, mais combattre avec les armes de l'espoir. » Alors, ça c'est une formule que l'on cite souvent, hein, et de Louis-René Desforêts, qui est toujours vrai, vivre, il faut vivre en bonne intelligence avec le doute. Donc le doute, et il est obligatoire, s'il n'y a pas de doute, on va au désastre. Hein. Mais il faut combattre avec les armes de l'espoir, c'est-à-dire que le doute ne doit rien enlever à notre combativité. Migraine, crâne, antiquité. Les faire poser au premier doute matinal, c'est le réveil dans les organes du passé. Les derniers mots tachés de sang. La lumière est en retard d'un dimanche. Et le ciel étendu sur l'horizon ne sèche pas. Ah, si migraine, antiquité, s'éternisait dans le vieux crâne qui arroserait les géraniums du présent. Le cœur dans le garage froid commence la journée. La poursuite du pain du journal. Sur le frigo, le gui vitreux, le clou sous le calendrier nous blesse. Le mur fait le mort à table, le temps d'une vaisselle est déjà. Dos à dos, il faut partir. Les platanes plus vieux en nous que dans la cour. Il pleut dans cette laverie. Des muets sont assis comme dans le tribunal de la dernière solitude. On dirait que leur linge moins sale les rassure, mais si peu. Quand nous croisons dans la rue, ils nous regardent, leur sourire sidéré de notre union recommencée. Quand la maison disparaît dans ses murs sans légende, elle n'a plus d'enfants curieux pour donner suite à ses lézardes. Ne peut plus enfanter même un fantôme. La fenêtre de la chambre couche dehors sur un trottoir sans le souvenir de sa rue dans un monde disparu. Au lavabo trop blanc, au miroir mansardé, dans la chambre d'hôtel, il dormit mal, épouvantail. Le corps dévoré par les draps, plus tard dans la rue, veuf, déjà de sa journée, il reconnut son ombre à la fenêtre en surnombre. Devant notre cuisine, là, où nous avons posé nos pieds, ensemble, d'être au matin, des brins de moineaux occupent la terre fébrile, trouve de quoi vivre, mais ce soir, si nous apparaissons l'un sans l'autre, soudain, sans nous reconnaître, ils nous fuient, nous privent de leur présence nourricière et redevient la terre
entre les herbes, sans issue.
La terrasse, avec les chaises mouillées, l'odeur des faubourgs sur tes cheveux, le gris ruelle au passage des oiseaux maigres dans un andante de feuilles mortes. Saison battant ses nuages, les seuls à s'occuper du ciel, avec tout ce bois mort du temps qui passe un hiver de pauvre. J'aurais dû protéger des souvenirs heureux de ces riens désirables, le vert nouveau d'une pinède, la montée des odeurs en touffe à tes aisselles. Les pierres que tu as portées, une à une, obéissent au mur que tu as vu naître. La pluie et la sécheresse nettoient sa mémoire de pierre. Il vieillit seul, sans héritier. Mais lorsque la lumière rajeunit de matin, c'est sur lui qu'elle s'appuie. C'est un ciel de mai si noir que les chardons sortent des fosses couverts de cendres. Nous pourrions y déposer nos morts, que la terre innocentera peut-être, qui se lève de nos organes sans se plaindre, pour vieillir dans nos silences, sans nous aider en solitude. Ténèbres, assises sur le lit, dans la chambre dépeuplée, t'attendre, sur une chaise, l'autre vide, avec ta jupe souvenir, toujours plus maigre de ton corps. J'imagine le verglas et la chute entre les tôles, et ta jupe sur le cou qui devient monumentale. Le glas, de combien d'ans? Les plus vieux du pays sont morts, et pour nous, meurent pour toujours. Contre le mur du foyer, sur les chaises du bar, sous les marronniers du parc communal, et dans l'immensité qui a toujours des places vides. Après la levée du corps, une statue encore en chair se déplace dans la cuisine. Des chaises empruntées en trop se revanchent sur nous de leur présence boisée, sur nous qui allons retourner la terre du village pour lui, derrière son cercueil. La colère porte nos mâchoires. Des morts enfants qui n'ont plus de visage. Mais tu restes assis, respire goulûment, les yeux sur tes lauriers roses, où le mistral joue comme hier à l'innocent, et ton cœur bat un tonnerre impuissant, alors que tu voudrais tant partager l'éclair d'une balle perdue. Ciel si proche, carbonisé, que la pie s'ensevelit dans l'olivier. Les collines sont assommées et leurs tumeurs suspectes. Il pleut grièvement. Les pneus glissent, attention. Le sang serait versé sur le corps charbonneux. Une semaine dans un lit, et l'on découvre des racines de cheveux. Comme si la jeunesse crâne s'était retirée d'un visage. Racines blanches sur des os si dénudées publiquement. Des lèvres vont s'abandonner au ver d'eau sans nom de l'hôpital. Écriture aigre-douce, dans la vie qui grisaille, cri, greux, gris, cela ressemble à des ratures d'un poème illisible. Le silence pour seule issue, comme si des mots perdaient leurs voyelles, se tramaient leurs consonnes contre le sens. Là complote l'inconscient qui tire les vieilles ficelles. Le « moi », c'est quoi? C'est si obscur. Lui préférait le « mot », celui qui vient du cœur, porteur du rouge à tous. Moins encore une motte de terre la plus commune que l'infini des champs salue, ou le mystère d'une page engrossée par le poème. Ce que tu vois crois voir, t'échappe. Dans le fouillis des sens, tu crois saisir la matière visible. Erreur, à perte de ta vue, la matière se désincarne et vaporise ses limites. Ce qui s'est dérobé fait signe, signe de mélancolie. C'est une flaque désolée d'être en suspens ou signe d'utopie, un ciel attend d'être achevé par ses voyelles. Faut-il faire confiance à ce qui est, change, trahit, à ces miroirs mouvants sur la rétine? Est-ce un livre en lévitation? La page blanche d'un nuage, l'apparition d'un flocon, on ne s'évade pas d'un songe. On dit banalité, mais ce mot dit du mal, de ce monde visible. Il arrive que la banalité soit désirable, car en avance sur le rêve. Le sommeil nous a couverts d'eau trouble. Et les rêves, disais-tu, nous mettront sur la paille, car dans la vie refroidie par des ombres humaines, dans ton linge sur la chaise, dans tes yeux pris sur le vif, il y a cette guerre. La nuit n'annonce rien du côté de l'aurore qu'un soleil de pacotille. Les rues meurtries passent devant notre porte. Attendre, disais-tu, le sang conspire sous les mots. Mais les morts sont-ils patients? Ce dimanche, le miracle serait d'entendre des pigeons dans les cèdres du Liban. Mais la rumeur des morts prochaines verse de la boue sur ce vœu. Et les cloches de mon village mettent des siècles à trouver le repos. Dans ce quartier sensible, la clé n'est jamais sur la porte et la fenêtre se méfie du plus proche vivant dehors. Télé de la solitude. La violence a 100 personnages, les cris ont toujours des voisins. Chaque escalier connaît sa ruine, chaque cave ses secrets, où tout se risque sauf l'air libre. Il manque des fleurs en cuisine. Les femmes ont abandonné leur fraîcheur à la sueur. Au pied de la tour, le gitan vend des pommes déjà meurtries, mais le trottoir a vu pire. Des sacs de rue ont devant eux l'éternité du plastique. Ils useront même les vents. C'est le connu qui fait si peur, car l'inconnu aurait peut-être à proposer quelque travail. Le dernier texte, trottoir d'enfer, chaleur, action, sous leur bonnet de laine grasse, des maghrébins à bottes de charbon déroulent des laves en feu noir. La goudronneuse les endeuille, pourront-ils respirer un jour des odeurs libres de leur mère sur la plage de Tipaza? Marcel Migosi, il restera des étincelles. Ce sont des peintures de Serge Plagnol, magnifique livre aux éditions Tipaza. Claude Desbois, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons la semaine prochaine à 10h.